Avait lieu cette semaine à Montréal une rencontre autour d'une thématique importante pour le monde francophone, la découvrabilité des contenus francophones à l'ère de l'intelligence artificielle. Un moment pour voir les défis et opportunités que présente l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la promotion des contenus francophones, mais aussi pour protéger la diversité des expressions culturelles et de la diversité linguistique en ligne. Pour revenir sur cette discussion, on va accueillir le titulaire de la chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Destiné Chiwali.
Bonjour.
Comment l'IA peut aider la découvrabilité du contenu francophone?
C'est la question qu'on se pose. Et au lieu de voir l'IA tout de suite comme une menace, oui, elle présente des risques dans différents secteurs et la culture n'y échappe pas. Mais on voudrait justement se poser la question autrement de savoir comment l'IA pourrait être mise au service de la mise en valeur et de la découvrabilité, de l'accessibilité des contenus culturels francophones. Parce que comme vous le savez, nous faisons face actuellement à une tendance d'uniformisation un peu au niveau de la consommation culturelle, simplement parce que notre attention collective et notre consommation culturelle est souvent orientée vers des contenus des pays culturellement dominants et généralement des pays des contenus provenant des pays anglo-saxons. On tirait sur la sonnette d'alarme en parlant de l'américanisation de la culture. Là, ça fait des années, depuis les années 80-90 qu'on en parle, mais aujourd'hui c'est un enjeu qui nous est appelle, d'autant qu'on voit effectivement le développement et l'accélération au niveau des technologies de l'intelligence artificielle. Et nous nous posons cette question aujourd'hui parce que on se rend compte qu'il faut pas manquer le train là, c'est-à-dire quelque chose est en train de se passer littéralement avec des enjeux systémiques au niveau notamment de la manière dont les contenus nous sont recommandés et nous sont donnés à voir sur les grandes plateformes internationales qui, vous le savez aussi, sont devenues un peu comme les gardiens d'accès là, les gatekeepers d'accès à la culture. Et donc, en gros, renversons le paradigme et disons, technologiquement, est-ce qu'on ne peut pas trouver la solution en tant que telle, sachant que ces algorithmes, ces fameux algorithmes des grandes plateformes comme Netflix, Spotify, Amazon, Vidéoprime, tout ça, sont aujourd'hui un peu dans le rôle que jouaient les disquaires, les libraires qui mettent en avant, vous savez, et exposent et donnent de la visibilité à certains contenus quand on est dans les magasins de distribution physique là. Et donc eux ils le font en ligne et autant on parle de la découvrabilité comme la possibilité de se faire recommander des contenus dont on ne connaissait pas au préalable l'existence. Autant nous, en tant que chercheurs aujourd'hui, on se demande là, est-ce qu'il y a encore une véritable découvrabilité par hasard, une vraie découvrabilité par sérendipité là? Est-ce qu'on peut encore l'expérimenter aujourd'hui, sachant que ben les machines suivent toutes nos traces et que bien évidemment elles nous amènent à la fois vers nos préférences pour nous faire des recommandations soi-disant personnalisées, mais là encore on est dans de la personnalisation de masse là un peu et donc nous on voulait aller dans la granularité pour essayer de voir comment l'intelligence artificielle peut aujourd'hui nous aider à sortir du fameux phénomène des bulles de filtre là où nous sommes enfermés dans nos propres préférences, dans nos propres goûts et nous amener à développer une forme de curiosité un peu automatique là ou automatisée qui ferait en sorte que finalement on aurait plus de chances de se faire recommander des contenus notamment des contenus culturels en français ou francophone, québécois dans lesquels on s'identifierait le plus là.
Mais avez-vous l'impression qu'on pourrait hacker, pirater l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse nous amener justement vraiment vers une facilitation, une facilité de la découvrabilité du contenu francophone?
Oh oui, plus que d'y croire, il y a des données qui commencent à le prouver, là, notamment plusieurs études qui montrent que les algorithmes sèment un peu un genre d'illusion de la recommandation personnalisée là des goûts des internautes qui souhaitent découvrir consommer une diversité de contenus en ligne parce qu'au final on se retrouve toujours à avoir des recommandations très similaires là en définitive et vous savez comment qu'il fonctionne, hein? Il fonctionne beaucoup par corrélation, en suivant justement notre historique de navigation, notre historique de consommation. Et donc, il y a définitivement la possibilité, si on s'en remet à la conception, au design même des algorithmes, là, d'éviter certains biais, certaines discriminations, ben, technologique. Là, je vais vraiment au-delà des biais idéologiques des concepteurs et conceptrices des algorithmes. Je vais vraiment au niveau de la discrimination technologique qui peut être induite par le fait que, vous savez, des fois, on considère ces algorithmes-là comme, disons, des demi-dieux, là, dans le sens où on pense qu'une fois qu'ils sont effectivement entraînés, ben, automatiquement, ils vont finir justement sur la base de certain nombre de modèles de données sur lesquels ils seraient entraînés à nous fournir des résultats qui sont un peu conformes à tout ce qu'on aurait mis comme input en amont là-dedans. Mais si on repart sur cette hypothèse-là, ce postulat-là, ben, il est capable, hein, de paramétrer les algorithmes et de donner le pouvoir même aux utilisateurs. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. C'est-à-dire, aujourd'hui, on le voit, les paramètres et les critères qui permettent d'expliquer les résultats de ce qui nous est recommandé, ben, ils ne sont pas tout à fait transparents, là, mais ces critères, on le sait, s'appuient davantage sur des impératifs commerciaux, économiques. Hein. Ce n'est pas l'intérêt général, ce n'est pas l'intérêt public, ce n'est pas la diversité culturelle qui compte ici, là, dans la manière dont les algorithmes sont paramétrés par les grandes plateformes, là. Et donc, comment on change de paradigme? Puis, moi, j'essaie vraiment d'approfondir ça, même dans les recommandations qu'on fait dans nos recherches là, au gouvernement et puis dans des enceintes comme l'UNESCO ou l'Organisation internationale de la francophonie où on discute de ces enjeux-là. Je dis, mais il faudrait qu'on en arrive à une forme d'incitatif et qu'on développe des preuves de concept pour leur montrer que, dans le fond, ils font partie de la solution. Ne soyons pas là juste pour dire, ben, oui, c'est nécessaire d'encadrer leurs activités, de mettre des lois, mais trouvons le moyen, en accompagnant nos lois, là, la mise en œuvre de nos lois avec des mesures concrètes, là, ben, trouvons des moyens de dire à ces géants, aux propriétaires des plateformes, qu'ils ont la capacité, et ils le savent, là, aujourd'hui, s'ils le veulent, de dire, ben, ce n'est pas parce que vous êtes au Québec et que le Québec est dans le Canada que systématiquement, nous, la manière dont nous paramétrons nos algorithmes sur Spotify, par exemple, mettons, pour consommer de la musique, ferait en sorte que, oui, on tient compte de votre géolocalisation, mais pas d'un point de vue du Québec qui n'est qu'un petit marché, mais on tient compte du fait que vous êtes dans le Canada, c'est le Canada, puis à partir de là, ben, ça ne doit pas bien nous étonner qu'on ait plus souvent de recommandations de contenu de musique en anglais que plutôt qu'en français, même si on en demande de consommer de la musique québécoise et de la musique francophone. Et donc, de pouvoir nous permettre, imaginez, là, chez Bruno, que nous, en tant qu'utilisateurs, au-delà du 1% de contenu de catalogue de Spotify qu'on nous met en avant, qu'on nous recommande, que le 99% restant, on a la capacité en tant qu'utilisateur de dire, c'est pas juste mes catégories de goût, bien c'est pas juste mes humeurs du matin quand je fais mon jogging, etc. Non, je suis capable de dire, ben je veux tel pourcentage. Là, on comprend qu'on ne veut pas mettre ça dans la cour du CRTC, mais si on donnait simplement la capacité à l'utilisateur de pouvoir lui-même, de manière très granulaire comme ça, dire, ben j'en veux peut-être 20% ou 30% de contenu québécois, c'est déjà ça là, 20% ou 30%, puis 50% de musique coréenne, la K-pop par exemple, parce que ben, je suis amateur, je suis fan, là, et ainsi de suite, puis d'avoir finalement une diversité qui soit représentative de mes goûts éclectiques, de ce que je veux vraiment consommer et de ma curiosité d'aller découvrir d'autres choses et d'élargir même d'ailleurs mon univers musical, que de m'enfermer littéralement dans des contenus qui sont dictés par ce qui plaît et ce qui séduit le monde, là, tu sais, le mainstream, là, le fameux, qui nous est un peu imposé sous une forme de dictature des algorithmes, là, et de leurs concepteurs actuellement.
Mais Destiny, je vous écoute, ça a l'air tellement simple et ça donnerait tellement une expérience beaucoup plus agréable aux consommateurs qui utilisent ce type de service. Mais pourquoi c'est pas fait selon vous?
Ah, il y a plusieurs raisons à cela, mais la première qui paraît un peu comme une évidence, c'est que une fois encore, il faut ici en revenir un peu au modèle d'affaires hein, des plateformes là. On est dans un capitalisme de plateforme qui est en train de se transformer en un capitalisme algorithmique là. Il y a plusieurs de mes collègues dont Jonathan Martineau qui en parlent. Là. Il faut bien comprendre que de simples diffuseurs ou distributeurs de contenu, ben, certaines de ces plateformes, surtout par exemple en audiovisuel, on le constate plus là avec les Netflix de ce monde, ben, sont devenus aussi des producteurs de contenu, des contenus originaux. Puis ils ont des comptes à rendre à leurs investisseurs. Et veut ou veut pas, il y a des biais qui sont induits dans ce qui nous est recommandé, là, dans le sens où ils vont accorder, même déjà au niveau de la taille des vignettes, plus d'attention, là, on parle de captologie ici, concept déjà avancé par des chercheurs à Stanford depuis les années 95, 90, 95, et qui aujourd'hui, on l'expérimente, là, la manière dont aujourd'hui le design de notre attention est fait en sorte qu'on est dirigé vers des produits vedettes, vers des contenus originaux, exclusifs, dans lesquels ces plateformes ont le plus mis de l'argent et où ils ont plus d'intérêt à ce qu'on y aille que d'aller voir le contenu qui intéresse pas grand monde éventuellement, mais qui éventuellement correspond parfaitement nous à notre goût, à notre besoin là. Donc il y a comme une forme de hiérarchisation un peu de la valeur associée au contenu. Et cette valeur est déterminée, non pas finalement en définitive en fonction de nos préférences ou de nos contenus, mais en fonction de calculs économiques purement et simplement, et qui font en sorte que, ben, vous savez, 70% des contenus visionnés par les abonnés de Netflix sont le fait des objets d'une recommandation soi-disant personnalisée de la plateforme. Mais n'oubliez pas, dès qu'on atterrit sur la plateforme, on a les fameux dispositifs, là, de captologie là, dont font partie les palmarès, les tops. Et le top de ce qui est écouté au Canada aujourd'hui, veut ou veut pas, quand on passe toute une bonne partie de sa soirée à scroller pour essayer de voir dans les rangées horizontales qu'est-ce qu'on écoute, on finit des fois par s'en remettre finalement à ce qui est le plus populaire, à ce qui est le plus aimé, parce qu'on ne veut pas prendre la chance éventuellement de ne pas tomber sur un contenu qui nous décevrait. Et on prend pour acquis que ce qui est le plus populaire, le plus apprécié, le plus aimé est forcément ce qui pourrait aussi faire notre affaire. Et c'est là que finalement, il y a comme quelque chose de systémique qui est en train de se passer au niveau de la manière dont on nous recommande et dont on découvre les contenus et que ça n'arrange pas du tout et ça ne laisse pas beaucoup de place finalement à la diversité telle qu'on aurait souhaité. Il y a une grande diversité au niveau de l'offre, mais il y a un écart terrible avec le manque de diversité au niveau de ce qui est consommé parce que la consommation est totalement concentrée sur les mêmes types de produits, sur les mêmes types de contenus, là.
En terminant, sachant que vous êtes quand même depuis un bon moment le président d'Internet Society pour le Québec, vous représentez l'intérêt du Québec et des internautes québécois et de la société québécoise par rapport à la question de l'Internet et son avenir, son développement, sachant que vous êtes titulaire de la chaire de l'UNESCO, que vous avez l'oreille de l'UNESCO, vous avez aussi l'oreille du gouvernement du Québec, du gouvernement canadien, avez-vous l'impression que ces gens-là sont sensibles à ce que vous avancez comme possibilité?
Ils ne sont peut-être pas encore assez sensibles aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de la diversité, j'ai eu la chance de me retrouver sur des tables de discussion, que ce soit dans des enceintes multilatérales à l'ONU. Vous savez, on est en train actuellement même de négocier un pacte numérique mondial qui devait être adopté lors du sommet du futur à New York en septembre prochain. Puis, je me retrouve des fois à des tables de discussion où on a les représentants de ces plateformes-là. Puis, quand on commence à leur parler de diversité culturelle, eux, ils disent, ben, on va faire des efforts pour mettre plus de diversité dans nos équipes. Là, t'sais, bon, c'est déjà un début là d'avoir de la diversité au niveau des personnes qui conçoivent leurs algorithmes et autres, mais la vraie diversité dont on parle ici, c'est la diversité des expressions culturelles et c'est ça qui est comme une garantie aussi de notre souveraineté culturelle. Là, je fais un clin d'œil au rapport Taillon, Duhem, Guèvremont et Baudouin là, qui venait de sortir pour nous rappeler, et ce rapport insiste bien là-dedans, ainsi que le rapport même Prêt-Pouliot là de l'innovateur en chef de l'XY qui ont fait un formidable travail. Tous ces rapports-là orientent et disent aujourd'hui que il y a nécessité de, disons, prendre clairement des dispositions efficaces pour pouvoir réguler, encadrer un minimum ces gros joueurs. Et on peut s'en préoccuper du moment où on voit, par exemple, qu'au niveau de notre CRTC, la mise en valeur, la découvrabilité des émissions canadiennes, francophones, tout ça, ben, on dit dedans que il faut pas trop aller vers une approche qui va vouloir influencer les algorithmes de recommandation, par exemple. Mais si on fait pas ça, mais ça reste que ça demeurera un Far West, dans le sens où, même si on ne veut pas imposer des quotas aux gens, là, au niveau de ce qu'ils vont consommer, on s'entend, mais minimalement, les leviers sur lesquels on pourrait agir, c'est ces leviers un peu technologiques, là, qui feraient en sorte que on expose le minimum les gens à la diversité de l'offre qui existe, là. Si on ne le fait pas, le statu quo va être maintenu, et pire, on rentre dans des risques systémiques que peut générer l'IA, y compris l'IA générative, là, en matière de propriété intellectuelle et de juste rémunération et de mise en valeur. Une fois encore, on y revient là, c'est vraiment une boucle. Et donc, moi, je pense que, et c'est ce que je disais tantôt, il faut faire un véritable pas de foi, là, en se disant que ces acteurs, ils ont quelque part à perdre si on joue sur leur réputation et sur le fait que, disons, là, vous savez, leur force aujourd'hui, c'est la masse critique d'utilisateurs de leurs services, là, de leurs plateformes. Et si aujourd'hui, ils ont une image à soigner auprès de de leurs abonnés, de leur parc d'abonnés, de milliers d'abonnés, eh bien, si on montrait dans nos discours et dans nos mesures, là, qu'on voudrait mettre en avant leurs bonnes pratiques, ce qu'ils font, eux, là, c'est ce qu'on a posé la question concrètement à Netflix, à Google, de dire, ben, qu'est-ce que vous faites pour mettre davantage en avant et mettre en valeur une partie du patrimoine culturel québécois, une partie de notre écosystème de créativité là? Qu'est-ce que vous faites concrètement et qu'est-ce que vous pouvez faire technologiquement pour mettre cela en valeur? Et c'est là où je vous lâche un scoop là de ce sur quoi on voudrait aller au niveau de nos travaux, y compris les travaux qu'on aura dans notre groupe de réflexion international de l'UNESCO sur la diversité d'expression culturelle dans l'environnement numérique ce printemps. On voudrait peut-être, moi je vais vraiment en tout cas pousser qu'on aille un peu vers une forme de labellisation. T'sais, on l'a vu là, dans le domaine de vinicole, là, avec les vins, avec les labels, là, mais on peut trouver, penser à un système de labellisation qui va créer une forme d'émulation, d'incitatif. Et ces plateformes, il suffit qu'une ou deux là montrent l'exemple en disant, ben voilà, nous, on a coché toutes les cases qui font que nos algorithmes sont certifiés en faveur de la découvrabilité de contenu francophone ou de la diversité culturelle. Puis les autres, ils vont quand même commencer, ne serait-ce qu'à avoir une curiosité pour dire, ben ça nous intéresse aussi là, que nous, Deezer, qui sommes vraiment présents sur le marché francophone, on voudrait par exemple devancer Spotify en montrant que nous faisons de quoi pour que quand quelqu'un cherche de la musique québécoise, on ne lui recommande pas systématiquement, par exemple, près de 1 000 fois, et ça, c'est nos recherches qui l'ont montré, près de 1 000 fois, quelqu'un qui veut consommer de la musique québécoise ou du Makossa camerounais ou du Zouglou ivoirien, ben, on va lui recommander du David Guetta plus de 1 000 fois. Ça a aucune allure, là, tu sais. Et donc, eux-mêmes, ils sont conscients de ces biais-là déjà. Ils veulent y travailler, mais je pense que c'est aussi à nos pouvoirs publics et dans nos systèmes réglementaires et législatifs, tous les chantiers qu'on a actuellement en cours, de trouver ce moyen-là, de ne pas chercher à tirer sur une cible mouvante, là, parce qu'on va toujours rater la cible, mais de trouver le moyen, justement, de pouvoir les responsabiliser davantage et les inciter à faire des efforts dans ce sens. Comme ça, ben, ils vont se voir un peu comme les sauveurs de notre culture et non les méchants et les éléphants dans la pièce qui cassent tout, là.
Bessini Chiwali, vous êtes titulaire de la chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement de l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes également le président d'Internet Society pour le Québec. Merci d'avoir pris de votre temps et puis merci d'avoir partagé comme ça votre réflexion sur le sujet.
Un grand merci à vous pour l'invitation. Au
Au revoir.
plaisir. Au revoir.